Moi, je suis venu qu'à avoir du pouvoir chez G2. J'ai été donc nommé président du groupe, président du conseil, puis à une certaine époque, j'ai été président de Montréal, tout ça en même temps. Puis de la même façon, un peu comme les fondateurs s'organisaient pour m'enseigner, ben à un moment donné, il faut que tu t'organises pour oublier ce pouvoir-là, pour ne plus l'utiliser, puis faire en sorte que toi, tu grandisses, puis que les gens, particulièrement à l'entour de toi, grandissent.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 158e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et également jeudi matin. J'en profite aujourd'hui aussi pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé Commerce Élite. Après Hypercroissance et Social Selling, on a décidé de lancer un nouveau podcast qui sortira à chaque mardi parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Les entretiens tactiques seront également au rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. La structure de croissance choisie par beaucoup de grandes agences de publicité au Canada suit habituellement un chemin très précis. D'abord, on trouve notre spécialisation, on grandit ensuite en augmentant nos sphères de service, jusqu'à atteindre une certaine taille critique nous permettant d'aller chercher des mandats avec des entreprises de grande envergure. Et c'est habituellement à ce moment que les plus gros groupes publicitaires au monde viennent cogner à notre porte afin d'acquérir notre firme. Maintenant, est-ce que c'est le cas de toutes les agences de publicité? N'y a-t-il pas une plus-value à rester 100% indépendant? Pour le 158e épisode du podcast Hypercroissance, j'ai la chance de m'entretenir avec Claude Auchu, président et chef de la direction de la plus grande agence de création indépendante au Canada, LG2. Claude, qui fait partie de l'entreprise depuis 2006, nous raconte aujourd'hui comment LG2 a pu mettre en place une structure de gouvernance assez différente de ce qu'on voit habituellement. Il nous parle également des stades d'évolution que l'agence a connus afin d'atteindre 500 collaborateurs au moment de l'enregistrement de ce podcast. Sans plus attendre, ma discussion avec Claude Auchu. Claude Auchu, vous êtes le président et chef de la direction de l'agence LG2, la plus grande agence de création indépendante au Canada. Vous avez joint l'organisation en 2006 en faisant partie des 75 premiers employés quand l'organisation peut se targuer de travailler avec plus de 500 collaborateurs aujourd'hui. Claude Auchu, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast.
Ça me fait extrêmement plaisir, Antoine. Merci de l'invitation.
Et Claude, avant d'aborder tes 16 dernières années avec l'entreprise, est-ce que ça serait possible pour toi de bien expliquer à notre audience quel type d'agence LG2 est et quels sont les clients que vous desservez?
LG2 a été très connu dans les premières moitiés de son existence pour comme étant une agence de publicité. Dans les 10 dernières années, il y a eu une transition. Aujourd'hui, on parle d'expérience de marque. Et puis, on est une agence donc d'expérience de marque. Et puis, on utilise donc la stratégie, la créativité, la technologie, de l'architecture. Bref, plein d'expertises qui sont chez nous pour faire en sorte que les expériences autant des clients que des employés, donc des marques, où on parle de marque employeur dans un cas comme ça, soient évidemment mémorables, qu'ils soient distinctifs, qu'ils soient liés sur les valeurs de l'entreprise, sur le positionnement. Fait que c'est là que nous, on intervient avec notre créativité. Et puis, on a à peu près, bon an, mal an, 200 clients. On a la chance donc de travailler avec des belles, des Beneva, des Maxi, des Hydro-Québec, Boréal, bref, des belles grandes marques d'ici, mais aussi canadiennes comme Under Armour, Canada comme la LCBO en Ontario, Debay, puis donc ces différents secteurs dans lesquels on est actif, autant commerce de détail, commerce électronique, tourisme, services publics, bref, partout où il y a des belles problématiques d'affaires ou sociétales à communiquer, à amener des grandes idées. Parce que dans le fond, aujourd'hui, on dirait qu'on souhaite plus avoir de brief, on souhaite avoir des problèmes, puis être capable donc de les régler puis d'accompagner nos clients là-dedans.
C'est tellement bon ça. On veut plus des briefs, on veut des problèmes. J'adore ça. Donc Claude, avant d'intégrer LG2, j'ai pu voir que toi, de ton côté, tu avais également fondé une entreprise, tu es un des trois cofondateurs, je crois bien, derrière l'agence Bob, une entreprise qui est toujours en activité aujourd'hui. Peux-tu nous partager un peu comment la société s'était lancée en 2002?
Oui, moi je suis sorti de l'UQAM, j'avais mon bac en design graphique, puis j'ai été engagé par une première agence, Puis 4 ans plus tard, j'ai décidé de partir à mon compte. Et puis, on dirait que je suis un peu un entrepreneur en, pas en série, mais en mettant en mini-série parce que Bob était ma deuxième studio de design que je partais. Puis c'était à l'époque avec Patrick Bibeau qui s'était intéressé à ce projet-là et qui était comme à l'époque un investisseur dans le milieu des coms. Je lui parlais de mon projet qui était l'agence Bob. Puis la plus ou moins bonne idée, en fait, à cette époque-là, c'était de faire en sorte que, un peu comme les cabinets d'avocats, c'est que les créatifs puissent être directement liés aux clients et qu'ils génèrent des équipes de travail, donc, avec eux. Puis, ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est que, évidemment, ça te permettait de développer une relation vraiment de proximité avec le client et le produit. Puis pour trouver le nom de l'agence, ben je me disais qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qui démontre le plus que tu as une relation de proximité, c'est si tu appelles quelqu'un par son prénom versus son nom de famille. Fait que si j'arrive, je dis bonjour Monsieur Gagné, c'est complètement différent que si j'ai salut Antoine.
Uh-huh.
Fait que je m'étais dit le nom de l'agence. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas Alfred, il n'y avait pas aucune autre, il n'y avait pas d'agence avec des prénoms. Et en faisant le tour, ben arrivé sur Bob, qui était le plus sympathique. Ça donnait un petit sourire à tout le monde. C'était court, c'était bilingue. Bob.ca existait, bref. Et ce qui fait que on a lancé cette business-là en 2002. C'est tout le temps des moments privilégiés, incroyables, de partir quelque chose, d'être dans une équipe qui est soudée puis qui rêve. Tu sais, au début, là, t'es vraiment... dans le rêve plus que dans les problèmes. Là. Tu sais, c'est comme,
bien sûr.
On finit très rapidement, anyway. Mais fait que non, c'était une belle époque. Je suis content de voir aussi que Bob continue donc d'être présent dans le marché, d'être actif. Il y a du très bon monde qui sont là. Fait que non, c'est des beaux moments que je garde en mémoire, la création de Bob.
Puis t'es resté 4 ans là-bas, donc on est capable de le voir, de 2002 à 2006. Ton rôle spécifiquement à l'agence à l'époque, t'étais davantage directeur de création.
C'était davantage vraiment directeur de création. J'étais vraiment, mon dada était encore à la création. Avant, j'ai eu un court passage chez Nolin comme vice-président directeur général. Et puis Pierre, il me voyait comme son dauphin là-bas, mais j'étais pas encore prêt à laisser aller le produit à... Je voulais encore être dans la cuisine, avoir les mains dans la pâte, puis être sur le produit. Et j'en avais pas terminé avec le produit. Puis là, j'étais comme devenu gérant d'artiste un peu trop vite dans ma carrière. Fait que j'étais là juste 6 mois. Puis la bonne affaire, c'est que j'ai quand même tenu Pierre au courant, au fur et à mesure, Pierre Nolin, de mes questionnements par rapport à ce poste-là que j'avais accepté. Au fur et à mesure, fait qu'il y a eu une discussion ouverte. Fait que ça s'est bien passé. Puis c'est pour ça que... Quelques mois plus tard, je partais Bob.
Puis bon, 4 ans, de 2002 à 2006 que tu es resté chez Bob et vient par la suite le début de ton parcours chez LG2 comme directeur, je crois, de la création encore une fois, mais chez LG2 Boutique à ce moment-là. Je l'ai mentionné plus tôt également dans l'introduction, vous étiez 75 collaborateurs au moment de ton arrivée. Peux-tu nous situer un peu de un à savoir qu'est-ce qui te fait partir vers l'agence LG2 et nous dire un peu à quoi ressemblait l'agence à l'époque?
C'est pas très complexe. Ce qui m'a fait changer pour m'emmener chez LG2, c'est Paul Gauthier. C'est le G de LG2.
Un des cofondateurs. Là.
Oui, exactement. LG2 a été fondé par Sylvain Labarre, le L, et Paul Gauthier, le G. Puis, il était deux au départ en 1991. Fait qu'aujourd'hui, c'est 31 ans d'activité pour cette agence-là, pour LG2. C'est un moment donné, j'ai eu un lunch avec Paul Gauthier où on devait parler d'un chalet qu'il voulait vendre, puis on en a parlé pendant 5 minutes, puis on a parlé de design pendant 2 heures de temps. Fait que il a jamais vendu son chalet, j'ai jamais acheté. Fait que tu sais, c'était comme quelque chose de secondaire finalement dans la discussion. Il y avait une opportunité chez LG2, puis il y avait j'arrivais un peu à un carrefour aussi chez Bob. Fait que le timing était très bon. Et ça a fait que cette idée-là de venir chez LG2, puis de partir le département, si je peux dire, de fonder la pratique du design puis du branding chez LG2 était vraiment intéressante parce que LG2, évidemment, était bien installé, avait des grands clients, donc il y avait un terrain de jeu qui était incroyable. Et puis des gens qui étaient inspirants. Fait que j'ai fait le saut et j'ai donc fondé avec Paul et Sylvain LG2 Boutique là, à l'époque en 2002.
Peux-tu nous expliquer un peu la distinction? Donc, j'imagine qu'il y avait certaines branches, certains départements au sein de ce gros groupe-là. Donc, LG2 Boutique spécifiquement, comparativement au reste de l'agence, quels étaient les services que vous faisiez?
Mais dans le fond, LG2, c'était vraiment l'agence de promotion et publicité, puis de production. Et on souhaitait, dans les discussions qu'on avait eues, Sylvain, Paul et moi, de créer une unité qui était pour pouvoir grandir rapidement puis s'affranchir, dans le fond, de ce qu'elle était avec un produit de création, design spécifique. C'est pas évident pour une nouvelle expertise, des fois, de grandir dans l'ombre du grand chêne qu'était LG2 quand tu amènes une nouvelle expertise qui est parfois moins, qui est nouvelle ou qui est peut-être un peu moins, qui est atypique des fois. Ben, en créant LG2 Boutique, ça veut dire on a créé une coquille vraiment administrative puis opérationnelle avec un nom qui était dans la famille d'eux, mais qui avait son entité aussi. Ça nous a permis, je pense, de gagner plusieurs mois, je dirais, en termes de rapidité opérationnelle, de rayonnement, puis de recrutement. Et quelques années plus tard, je pense à peu près, donc, 2000, pas loin de 10 ans plus tard, ben on a mergé LG2 Boutique au grand LG2. Et puis, c'était une bonne façon d'amener une certaine masse critique cette équipe-là au niveau design avant qu'elle puisse être embarqué dans le flot de production quotidienne là, de la grande agence. Là.
On la laisse respirer, puis ultimement, on l'amène avec l'organisation complète. Donc, bon, on le dit un petit peu plus tôt, 500 collaborateurs aujourd'hui, des bureaux à Québec, des bureaux à Montréal, des bureaux également à Toronto. Donc, définitivement, on peut le voir, il y a eu de la croissance, il y a eu de l'évolution, il y a des beaux mandats. La question maintenant que j'aimerais te poser, à l'époque, quand tu venais d'intégrer l'organisation, est-ce que tu sentais déjà cette effervescence-là? Est-ce que tu pouvais le voir là que l'organisation, il y avait de la suite dans les idées et que peut-être dans 5 à 10 ans, vous alliez devenir une organisation avec des centaines de collaborateurs?
Avec le recul, c'est facile. Mais au moment, pour être très, très franc, j'avais pas cette intelligence-là pour être capable de voir si loin en affaires.
Okay.
Je voyais que Paul et Sylvain avaient un plan. Il y avait un plan. Eux, pour eux, c'était clair qu'ils souhaitaient que la business demeure indépendante, qu'ils voulaient former des associés pour prendre la relève. Et puis, il y avait une culture aussi des gens du bon monde, des bonnes valeurs, un bon casting des gens qui est important pour eux. Puis, probablement que si tu poses la question à eux, peut-être qu'ils pourraient te répondre avec précision oui, puis pourquoi. Pour être très franc, à cette époque-là, moi, j'étais là, j'avais une mission, c'était créer un produit design de grande qualité, puis c'était à ça que je me concentrais. Puis tous ceux qui me connaissent savent que je peux faire juste une chose à la fois. Fait que j'étais vraiment affairé à ça. Tu sais, ça a toujours été... Mais tu sentais une grande ébullition. Tu sentais qu'il y avait un... Tu sais, avec le recul, tu peux voir qu'il y avait un... LG2 a toujours eu une croissance stable, contrôlée, mesurée, de belle qualité. Et ils ont toujours mis l'accent sur la qualité de vie et la qualité du produit. Fait que, à quelque part, tu peux... tu peux difficilement te tromper. Tu peux toujours te tromper dans la vie. Mais... ils mettaient les efforts aux bons endroits.
Ouais.
Puis on sentait qu'on a eu la chance, ceux qui sont arrivés, grosso modo, dans cette époque-là, de vivre probablement un beau moment de ce qui était pour être quelque chose qui était voué à grandir puis à attirer d'autres grands talents.
Il y avait une belle structure en place pour amener cette évolution-là.
Oui, exactement.
Et parlant d'évolution, on va parler de la tienne parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Donc, on le dit, t'es rentré dans l'entreprise en 2006. Ton rôle a grandement changé à travers les années. Directeur de la création de LG2 Boutique, maintenant chef de la direction du groupe au complet. comment cette croissance-là, cette évolution s'est faite? Parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir des piliers entre le moment que tu étais directeur de la création du volet boutique à PDG de l'agence au complet. Comment tout ça s'est fait à travers le temps? Est-ce que c'était clair à un certain point? On avait préparé un plan de succession avec toi? J'aimerais t'entendre là-dessus.
S'il y a de quoi qui était clair, c'est que tu n'aurais pas bêté 25 cents que moi je serais CEO aujourd'hui. Et j'aurais été d'accord avec toi. Je suis pas la preuve, mais je suis une des preuves que il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles dans la vie. Moi, j'étais un gars de craft. J'étais un entrepreneur. Je m'intéressais beaucoup aux produits. Et tu sais, j'arrivais, puis dans les, mettons, les 10 dernières années de ma vie, je développais mes choses. Si j'avais eu mes deux studios de design, puis j'arrivais là dans une culture très différente de la mienne. Puis moi, c'était un one-man show. Tu sais, j'arrivais là, c'était moi qui dirigeais mes studios. Puis c'était évidemment des beaucoup plus petits studios et succès que ceux de G2. Puis évidemment, le job des deux fondateurs, c'était de casser mon ego. Puis de faire en sorte que, tu sais, Paul a toujours parlé d'avoir un ego corporatif. Puis, si tu me permets, Antoine, je vais te faire un petit détour.
Vas-y.
Pour répondre à ta question. Il y a plusieurs années, moi, j'ai fait de l'aïkido. Un rêve de jeunesse de faire des arts martiaux que j'avais jamais fait. Puis j'avais choisi l'aïkido pour la philosophie. Puis ce qui est intéressant dans l'aïkido, c'est que contrairement en Amérique du Nord, où, mettons, le karaté est à ceinture blanche, la jaune, l'orange, la verte, la brune, la bleue, en tout cas, puis la noire à un moment donné, en aïkido, t'as pas de couleur de ceinture. T'as la ceinture blanche. Puis selon leur histoire à eux, c'est au fur et à mesure que tu évolues dans ta pratique, ta ceinture se salit. Au fur et à mesure que tu as des combats, puis que tu démontres que tu grandis à travers ton art, puis tu perfectionnes la maîtrise de tes combats, puis tes manœuvres, mais ta ceinture se noircit par ton expérience à travers ces combats-là. Ce qui fait qu'un jour, tu deviens ceinture noire. Ce qui fait qu'un jour, tu maîtrises parfaitement l'art du combat. Tu es un combattant en aïkido. La job après, c'est qu'elle redevienne blanche. La job après, c'est de ne plus te battre. C'est de grandir en sagesse et d'éviter les combats et de faire grandir les combattants par la philosophie plutôt que par l'exécution. Puis j'ai l'impression que dans le milieu des affaires, dans le fond, notre ceinture, c'est le pouvoir, c'est le contrôle. Puis quand t'es kid, tu veux te coller au pouvoir, tu veux avoir du pouvoir, ben les entrepreneurs, ceux qui travaillent fort, les ambitieux, tout ça vont s'approcher de ça. Moi, je suis venu qu'à avoir du pouvoir chez G2. J'ai été donc nommé président du groupe, président du conseil, puis à une certaine époque, j'ai été président de Montréal. Tout ça en même temps. Puis de la même façon, un peu comme les fondateurs s'organisaient pour m'enseigner, ben, à un moment donné, il faut que tu t'organises pour oublier ce pouvoir-là, pour ne plus l'utiliser, puis faire en sorte que toi, tu grandisses, puis que les gens, particulièrement à l'entour de toi, grandissent en partageant ce pouvoir-là, en ne l'utilisant pas, puis en faisant en sorte que réellement tu puisses avoir une grande collégialité, un grand travail d'équipe, que tu saches plus d'où la décision vient, puis que tout le monde avance. Puis je pense que c'est un des grands secrets, une des grandes différences de LG2.
Puis t'as parlé de pouvoir, j'aimerais t'entendre là-dessus. Quelle a été, à quelle vitesse t'as senti que ce pouvoir-là t'a été donné? T'as parlé de directeur de la création du volet boutique. Est-ce que par la suite, t'as eu le poste de directeur de création peut-être de l'agence au complet? Est-ce que t'étais peut-être directeur de LG2 boutique dans son ensemble? À quelle vitesse ce pouvoir-là t'a été donné à travers les années?
Ben moi, j'ai eu la chance d'arriver chez LG2 puis de créer une pratique qui était le design. Fait que j'étais comme le directeur général et directeur de création de la pratique de design. Mais je suis arrivé, j'étais tout seul. Fait que c'est comme, tu sais, je disais, c'était pas de grande magie en termes de management, là. Puis, bon, et puis j'ai eu la chance qu'il y ait des gens comme Pénélope Fournier qui ont embarqué rapidement, qui était à l'agence. Vanessa Dicker aussi au départ. Il y a des talents qui ont sonné à la porte, qui ont embarqué. Un Serge Côté de ce monde qui est arrivé. Fait que donc, on a pu, et à cause du support de la structure de LG2, puis de l'inspiration qui venait des fondateurs, ben on a pu faire grandir ça. Fait que donc, ça l'a grandi de façon normale, humaine. Tu sais, moi, j'ai été, grosso modo, pendant 10 ans, à bâtir la pratique de design. Et puis, c'est en 2016 que les fondateurs ont quitté et que là, le conseil d'administration en place m'a proposé de devenir président du groupe. Fait que c'était quelque chose qui était vraiment un parcours qui était, je veux dire, naturel et surprenant en même temps. Parce que déjà, c'est un statement vraiment fort que ce soit quelqu'un de la création.
Bien sûr.
Et qui soit à la tête de la plus grande agence indépendante au pays. Et
en puis. En même temps, ça fait du sens parce que vous vendez, on pourrait dire, du capital humain, hein? C'est des cerveaux que votre offre de service. Il faut que le dirigeant soit aligné à ça. Si c'est un dirigeant qui fait sans rien enlever à la pratique, mais que du développement des affaires, que des rencontres avec des actionnaires, sans comprendre littéralement quel est le produit, il peut peut-être avoir une déconnexion ultimement.
Oui, ben en fait, ça amène évidemment une saveur qui est particulière probablement à la gestion de l'agence. Mais la beauté en même temps, c'est que il y a 26 associés chez G2.
Mm.
Tout le monde est animé par la qualité du produit, que ce soit quelqu'un en stratégie, en conseil, en création, en technologie. Tout le monde est uni, puis ça fait partie des beaux legs des fondateurs, puis qui font partie de l'ADN de G2. Ben, c'est la qualité du produit. Fait que donc, c'est sûr que là-dedans, ça aurait été une autre personne que moi. Et c'est sûr qu'il y aurait une saveur qui aurait été différente. Mais en même temps, je suis à peu près convaincu que la qualité du produit aurait été demeurée centrale. Puis à tout ça, tu sais, puis moi, je suis l'ambassadeur du grand G2, mais c'est tous les associés, tout le management qui est là, puis qui au day-to-day, là, prend les décisions, réfléchit, on communique beaucoup tout le monde ensemble, fait que il n'y a pas de ce succès-là qui appartient à une personne.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours. Puis, parlons-en un peu de LG2 maintenant. Tu le dis, vous vouliez, je pense que c'était l'envie des fondateurs à la base de rester indépendant. Vous êtes toujours indépendant et vous avez pris cette décision-là de manière là très réfléchie. Je serais curieux de t'entendre et de comprendre le raisonnement derrière ça. Parce que, faut le dire, hein, il y a eu des gens d'ailleurs qui sont venus sur notre podcast, des grandes agences au Canada. Ultimement, on dirait qu'on atteint une certaine taille et un des numéro 5, numéro 6 au monde vient cogner à la porte, veut prendre une prise de participation, qu'elle soit minoritaire, qu'elle soit majoritaire, peu importe. Et on dirait que c'est un peu le destin de ces grandes agences de création-là, mais pas celui d'LG2. Quel a été le raisonnement derrière ça?
À la base, c'est vraiment les fondateurs qui souhaitaient faire en sorte que l'entreprise demeure à des mains des entrepreneurs d'ici. C'est pas facile à comprendre que tout le monde vend parce que c'est bien plus simple. C'est plus simple, c'est moins long, ça amène plus d'argent à ceux qui vendent, mais ça transforme complètement l'entreprise. Tu prends toutes les entreprises qui ont vendu, il y a un avant puis un après, là.
Mm.
Et ce qui est particulier, c'est que nous, dans les veines d'LG2, le sang qui coule, c'est un sang d'indépendance parce qu'on sait aujourd'hui, après 31 ans d'existence, que c'est la meilleure façon de rendre des comptes à nos employés puis à nos clients à tous les jours. Puis d'être agile là-dedans, d'être présent, d'être à l'écoute, d'être bienveillant versus de répondre trimestriellement à un holding qui est pas présent sur le plancher.
Mm.
Nous, nos 26 associés sont répartis dans les 3 bureaux, ont pour la plupart des expertises particulières et on fait en sorte que tout le monde est présent, collabore au succès, y travaille, que ce soit dans le craft, que ce soit dans le management, peu importe l'expertise qu'il a, fait que on a pu passer à travers la pandémie avec des tentacules sur nos trois bureaux, nos différents groupes, nos employés. J'estime avec une plus grande, je veux pas dire facilité parce que ça n'a pas été facile, mais on avait une plus grande présence auprès de notre monde. Je pense que ce modèle-là fait en sorte que ça offre aussi à quelqu'un qui s'en vient chez G2 de pouvoir aspirer un jour à être un entrepreneur.
Bien sûr.
Puis, ce qui fait qu'on a un modèle d'actionnariat en continu qui est vraiment unique. Et puis, on a revu complètement nos conventions d'actionnaires, on a vu les parcours d'actionnariat et pour faire en sorte qu'on puisse avoir donc des cycles aux 2 ans qui permet potentiellement du monde de devenir propriétaire d'une quelconque façon de l'agence. Fait que, il y a quelque chose qui est vraiment en continu, non pas genre à un certain moment dire « on va vendre puis il y aura une nouvelle vague » ou « on va vendre puis il n'y aura plus de vague ». Puis c'est comme ça, ça appartiendra à holding et tout ça. Fait que nous, c'est le choix qu'on a fait, puis on est tous solidaires et convaincus de ce choix-là.
Puis j'aimerais qu'on en parle un peu de ça parce que c'est assez exceptionnel. Tu le dis, 26 actionnaires. Vous le dites d'ailleurs sur votre site web, des entrepreneurs qui créent et des entrepreneurs. C'est un petit peu votre vision, une de vos raisons d'être d'ailleurs. Comment tout ça se met en place? C'est quoi la démarche pour quelqu'un qui arrive dans l'organisation, qui ultimement veut avoir des actions dans l'entreprise? Peux-tu nous expliquer peut-être brièvement comment ce processus, quel est ce processus et comment ça s'est mis en place?
Dans le fond, on a, comme je te disais, on a complètement revu notre partnership à nous pour faire en sorte qu'il puisse être fait en étapes et que quelqu'un qui arrive chez G2 va pouvoir être s'ils souhaitent être mis au courant des étapes à franchir qui est à travers le parcours d'actionnariat, qui est complètement différent. Tu peux partir de et comprendre du niveau employé au niveau des associés, puis comment tout ça est découpé. Et ça fait en sorte que les gens peuvent se dire, ben ça m'intéresse, ou il y a des gens que ça intéresse pas aussi. Mais puis ce modèle-là aussi, ce qu'il y a d'intéressant puis qu'on remarque après coup, c'est que les décisions qu'on prend sont vraiment liées au greater good du groupe LG2, parce que personne qui a énormément d'actions. Fait que la valeur, l'impact que ça a sur ma valeur, qu'on investisse X, Y, Z, ben, est beaucoup moins que si j'avais 65% des parts puis que je vais dire, il n'y en est pas question, là.
Exact.
Moi, ça me touche trop. Fait que c'est sûr que ça a aussi une répercussion très intéressante que j'avais pas du tout estimé dans le temps sur le nombre d'associés qu'on est. Je n'y vois que des aspects positifs et même au niveau du fait que même au niveau financier qui vient avec.
Intéressant. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre évolution, de votre croissance chez LG2. Dans les 5 dernières années, Claude, vous avez grossi de près de 50% votre effectif.
Oui.
Désormais, là, puis je le répète, 500 collaborateurs. Paradoxalement, tu me disais avant l'entretien que cette croissance est faite en ne visant pas une croissance à tout prix. Donc d'ailleurs, au lieu d'utiliser le dicton « cash is king », vous préférez utiliser le terme « care ». Is King. Peux-tu partager avec notre audience comment vous avez mis en place cette approche qui, à mon avis, vous a tout de même, et on le voit avec les chiffres, donné une très belle croissance sans nécessairement l'avoir visé, là?
Exact. Et puis, s'il y a un mot que je modifierais, c'est pas grossir, c'est grandir. Parce que j'ai l'impression que on a le droit de grandir parce que ça fait en sorte que tout le monde s'élève d'une quelconque façon. Et tant que les KPI de qualité et particulièrement la qualité du produit sera au rendez-vous, on sait qu'on peut continuer de grandir comme agence. Le jour où cette croissance-là est au nous empêche de livrer un produit de qualité pour nos clients, puis empêche nos talents de se réaliser puis d'avoir la meilleure portion de leur carrière chez nous qu'ils souhaitent avoir, ben c'est sûr que là on va savoir qu'on commence à grossir. Et puis cette croissance-là, nous, ce qui nous allume, tu sais, je trouve ça tout le temps étrange un peu, peut-être parce que je le comprends pas bien, mais je trouve ça tout le temps étrange un peu de voir, ben nous, notre objectif, c'est de croître de 200% en 3 ans. pour moi, c'est comme, c'est pas une vision, c'est pas un objectif, c'est pas, je sais pas comment un client s'inscrit là-dedans. Tu sais, fait que nous, on souhaite grandir pour faire et accompagner les entreprises d'ici, parce qu'on est d'ici, puis on a à cœur l'économie du Québec, de l'Ontario, du Canada, dans lesquels on vit, dans lequel on est. Pour ça, ben, ça revient toujours aux mêmes deux choses. C'est la qualité de vie de nos employés puis la qualité du produit qu'on livre. Ça, puis ça, ça vient vraiment à la base, à l'époque des fondateurs. C'est la qualité du produit va être garante de notre succès d'affaires. Mm. Fait qu'on n'est pas là, on n'est pas en business, nous, pour faire de l'argent. On est en business pour avoir des grandes idées. Puis le fait qu'on va avoir les meilleures idées va faire en sorte que les clients vont nous payer. Puis si on gère comme du monde, on va faire de l'argent. Mais c'est pas the other way around.
Je comprends. On a été capable de voir également que tout récemment, là, quelques semaines avant l'enregistrement de ce podcast-là, on est le 10 août 2022, aujourd'hui, vous avez changé votre conseil d'administration chez LG2. Tu as d'ailleurs décidé de te retirer du poste de président du conseil en cédant ta place à nul autre que Monique Leroux, une femme d'affaires qui a dirigé plusieurs grands groupes au Québec comme Desjardins. Là, je regardais la liste avant le podcast, c'est assez impressionnant. Vous irez jeter un petit coup d'œil, là, les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé, Claude, toi ou peut-être l'équipe au complet, à revoir ce conseil d'administration?
Bien, nous, on a formé un conseil d'administration donc le 1er janvier 2017. On a fait comme un premier cycle de 5 ans. Et puis, le conseil d'administration était formé d'associés, ce qui est typique des entreprises de services privés, peu importe le type de service. Et on s'est donné certains critères qui, évidemment, donc, il y avait d'avoir une parité, puis tant homme-femme, puis d'avoir une parité aussi création puis management, que le produit soit présent, encore une fois, et représenter nos marchés. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens de Québec, Montréal et Toronto qui étaient là. Je pense que dans ces 5 années-là, ben on a grandi à travers nos différents boards, et on a notre gouvernance a maturé au point où on est arrivé à un moment puis on s'est dit, je pense qu'on a comme utilisé le maximum que ce format-là nous offre. On est arrivé à la conclusion que ça serait bien qu'on ait un pas en avant, qu'on soit encore plus, qu'on ait encore une meilleure gouvernance. Et au départ, la meilleure gouvernance, ben à part sur séparer le rôle du président du conseil du chef de la direction, parce qu'à quelque part, j'étais le porte-parole de mon patron. Fait que c'est sûr qu'en termes de gouvernance, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus éthique ou fair ou de meilleure pratique. Fait que on s'est donc dit, on va séparer ces deux rôles-là. Et ensuite de ça aussi, on a opté pour amener des gens de l'externe. Ce qui veut dire qu'il y a donc une portion des gens du board qui sont de l'externe, puis une portion qui sont des associés, donc de l'interne. Tout ça a été fait on était accompagné par Brio Conseil. Qui ont fait vraiment un bon travail avec nous. Puis ce qu'on a fait, on a vraiment poussé là le processus le plus professionnellement possible. Mm-hmm. On s'est créé un comité de sélection externe, indépendant. C'est-à-dire qu'il y avait 4 personnes qui étaient dans ce comité-là et j'en faisais pas partie. J'ai briefé ce comité-là sur où s'en va LG2 puis qu'est-ce qu'on souhaite. Et le comité a donc, suite à ça, établi un processus pour l'externe et l'interne. Pour l'interne, les associés devaient, lever la main, dire que ça les intéressait. Si ça les intéressait, il y avait un formulaire à remplir. Puis c'était pas un formulaire qui prenait 10 minutes, là. C'était vraiment peut-être à peu près un bon 60 à 75 minutes là à répondre. Et chaque personne était rencontrée par le comité une demi-heure en entrevue, pour faire la sélection finale des associés qui étaient pour faire partie du board. Ensuite, au niveau de l'externe, ben on a établi des profils qu'on cherchait, qui soient en technologie, soit en culture et talent. Il y en a au niveau, évidemment, management, entrepreneurship canadien et tout. Fait que, bref, ce qu'on cherchait pour arriver à ce que le comité arrive à une mouture complète, le propose à notre board actuel, qu'on le fasse voter aussi par nos associés pour arriver aujourd'hui avec donc le super conseil d'administration qu'on va avoir à partir du mois d'août.
Puis c'est ça, c'est il y a du calibre là, sur le conseil d'administration.
Oui, mais tu sais, ça revient beaucoup à Mme Leroux. Là.
Bien sûr.
Monique, un, qui a accepté. Et puis après ça, ben quand c'est Mme Leroux qui appelle des gens pour dire « ça te tente-tu de venir sur le board? »
C'est plus facile.
C'est déjà quand même assez intriguant et invitant.
Mm.
Fait que c'est comme, ben un, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Ouais.
Puis qu'est-ce qui se passe? Puis c'est sûr que...
Est-ce que ça a été difficile de la convaincre de joindre le conseil à titre de présidente du conseil?
Je sais pas, je veux pas répondre pour elle, mais ce que je peux te dire, c'est j'ai tout mis mes œufs dans le même panier.
Ah ouais, ok, c'était clair, là.
Oui. Et ce qui est fantastique avec cette histoire-là, sincèrement, c'est que durant la pandémie, tu sais, on a tout fait un MBA de crise, probablement durant la pandémie, là, tout ouais. le monde, avec différents niveaux et tout. Puis je me souviens, au mois de mai à peu près, bon, le 13 mars, tout le monde, on est parti à la maison en disant on se revoit dans 2 semaines. Là. Mais finalement, c'était pas ça. En 2020, je me souviens, au mois de mai, je reçois un appel, puis elle dit « Bonjour Claude, c'est Monique Leroux ». Là, je regarde mon cellulaire, j'étais comme... Ma première question, c'était comme « Où c'est qu'il y a eu mon numéro de cellulaire?
Oh, » ouais.
Puis elle dit « Comment vas-tu? » Elle dit « Je veux juste... LG2, c'est important pour nous au Québec. C'est une grande entreprise. Je veux juste m'assurer que tu sais, si tu as besoin de prêts, de marge pour passer la crise, il y a plein de solutions qui sont disponibles à vous. » Fait que ça m'avait...
Est en charge de Desjardins à ce moment-là? Ou...
Non, pas du tout, pas du tout.
Elle a terminé son mandat en 2016, effectivement, c'est vrai, oui.
Je me souviens pas si à ce moment-là, était au Conseil d'Investissement Québec. Je sais pas ouais. si c'était terminé. Là, il y a probablement quelques mois là qui séparent ça. Mais donc, elle voulait m'informer, puis me rassurer, puis m'inspirer à passer à travers toute cette crise-là. Fait que c'est sûr que c'était, tu sais, d'avoir reçu cet appel-là, non sollicité, tu dis, my God, quelle grande bienveillance, là.
Bien sûr.
Et ça m'a toujours resté dans la tête.
Ben oui.
Quand on a pris la décision LG2, moi, j'ai fait comme, je me disais, ça prend une femme. Je me disais, je trouve que ça nous ressemblait. C'est vraiment, je trouvais ça... Puis ça aurait été un homme, ça aurait été fantastique. Mais peut-être que je me disais ça prend une femme parce que je pensais déjà à Monique. Puis je l'ai appelée. Puis on en a discuté.
Là, tu avais son numéro, donc.
Oui, exactement. Je pouvais l'appeler. J'ai été un peu sneaky parce que je disais, j'aimerais savoir tes conseils.
Mmh,
fait que, okay. Bon, vieux renard, comme tout le monde connaît la bonne technique. Fait que. Et puis après, je commençais à lui parler. Ben, je sens que tu serais une bonne candidate. Puis commencer à en jaser. Puis à un moment donné, elle m'est revenue, puis elle dit ça m'intéresse, mais j'ai des questions que je veux te poser, puis je veux regarder avec toi. Fait que là, on était embarqué dans le travail, puis elle a accepté, puis c'était écoute, on était tous vraiment ravis de pouvoir la compter parmi nous.
Ben c'est ça, c'est qu'elle va amener une vision différente. J'ai regardé un peu, puis elle a tellement opéré dans des organisations distinctes que d'avoir cette vision 360 peut vous amener sur des réflexions que des gens d'agence, des gens de création, des gens même de management d'agence peut-être ouais. ne pensent pas. Puis peut-être pour la prochaine étape de LG2, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, parlant de prochaine étape, avez-vous déjà tous envisagé à quoi ressemble l'avenir, les 12, 24, 36 prochains mois de l'agence?
Oui, c'est sûr que ça bouge toujours plus vite de nos jours qu'avant, mais je te dirais, en 2019, on avait commencé une pré-pandémie, c'est assez comique, mais une planification stratégique. Puis déjà là, on se disait, on cherchait une mission, puis maintenant, on se réalise, c'est pas une mission qu'on a besoin, on a un devoir. On est capable d'influencer les gens à prendre une boréale plutôt qu'une autre bière. Il faut que cette influence-là qu'on est capable d'avoir contribue à un impact positif.
Mm.
Et puis durant la pandémie, évidemment, que on a comme livré un peu cette planification stratégique-là la semaine avant qu'on quitte en pandémie, si je peux dire. Puis la pandémie nous a comme rassurés sur le fait que les choix qu'on qu'on souhaite faire, puis de ce qu'on s'est parlé, on s'en va dans la bonne direction. Puis ça nous a comme conforté dans les discussions, puis les ateliers, puis les choix qu'on a faits. Parce que, tu sais, il y a quelques années, c'était la, je vais prendre des gros mots, là, mais c'était la guerre au numérique. Présentement, on est dans une guerre de talent.
Ouais.
Demain matin, ça va être une guerre d'impact. Tout le monde n'auront pas le choix de réfléchir à leur programme d'impact social, environnemental. Ça sera même plus un good to have, là. Ça va être une barrière à l'entrée.
Ouais, je pense que tu as raison là-dessus.
Puis si les gens ne se préparent pas là, là, ils vont déjà être en retard. Fait que c'est pour ça que nous, c'est vraiment cette idée-là d'être au service du progrès, puis de faire en sorte que nos idées, nos expertises qu'on a puissent contribuer à faire progresser nos environnements, nos communautés, notre pays, à travers des meilleurs choix citoyens, des meilleurs choix de marque, de la plus grande transparence dans la communication, puis de l'accompagnement dans le positionnement, les valeurs, puis les alignements corporatifs que tout le monde va avoir. Il va y avoir une transition inévitable à se faire. Le milieu des affaires est le milieu le plus puissant pour faire changer les choses.
Intéressant. J'aurais des petites questions personnelles pour toi, Claude, parce que, bon, toutes ces réflexions-là, c'est un parcours qui est assez fascinant. Un créateur, vraiment, à la base, c'est quelqu'un de création, devenu peut-être encore, bien entendu, proche du produit, mais tu as un rôle de management au moment où on se parle. Tu es quand même responsable de 500 collaborateurs et de plusieurs projets. Donc, tu as une évolution assez fascinante. Comment tu t'es éduqué à travers les années? Est-ce que c'est par des livres? Est-ce que tu es retourné peut-être à un certain point sur les bancs d'école pour mieux comprendre un petit peu l'environnement dans lequel tu es en train d'opérer? Comment tu t'es formé pour ces différents rôles-là que tu as eu à travers les années?
Je suis pas très atelier de croissance, business personnel, coach, et tout ça, je te dirais. J'ai par contre la chance à deux niveaux d'avoir été formé, groomé, comme on pourrait dire, pendant 10 ans par Sylvain Labarre puis Paul Gauthier.
C'est un peu tes mentors, là.
Deux entrepreneurs très solides qui m'ont formé. Puis il y a des bouts que je comprenais pas trop des fois, là. Tu sais, il y a des claques d'en face que je recevais, puis je me disais, elle vient de où celle-là? Puis, mais à un moment donné, les morceaux du puzzle sont tous mis en place. Quand que on m'a offert la présidence, puis que j'ai commencé à faire du management, fait que je me suis mis à comprendre très rapidement. Grâce à ça. Puis, je vis au day-to-day avec des talents, honnêtement, malade mental. Que les discussions que j'ai, la qualité, la richesse, la profondeur, tous les jours, tu sais, à un moment donné, je donnais un tournant à Montréal, puis je disais, prenez 2 minutes, puis regardez à côté de vous, en avant, en arrière, là. Tout le monde qui sont ici sont tous bons, sont tous excellents. La preuve, ils se font tous offrir des jobs ailleurs. Ça me fait grandir à tous les jours, côtoyer ce monde-là. Fait que c'était comme ça l'apprentissage, puis jamais avoir peur de discuter, puis de partager une opinion, puis tu sais, qu'est-ce que tu en penses de ça, qu'est-ce que tu ferais. At the end, la décision t'appartient, mais de partager en petits groupes ou individuellement des mêmes sujets, à un moment donné, ça fait en sorte que il y a une intelligence collective qui se place, puis la décision s'avère plus mature, mettons. Puis probablement que c'était ça dans notre parcours, depuis qu'on a pleinement les 26 paires de mains sur le volant, si je peux dire.
Ouais.
On s'est peu trompé dans nos décisions, puis si on s'est trompé, on a eu l'humilité de revenir rapidement puis de reprendre le bon embranchement.
Je comprends.
Ces carrefours-là, on n'était pas si pire.
Podcast, t'en écoutes-tu un peu, Claude?
Oui, mais je vais être bien plate, là. Mon podcast favori, c'est pas Sorti du bois, puis c'est un podcast sur la course.
Fait que tu utilises le volet audio pour faire autre chose que le monde des affaires puis le monde de la création, on va dire ça comme ça.
Exact.
C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. On a tous des manières un petit peu de sortir de notre day-to-day. Et parlant de day-to-day, routine, la routine de Claude Auchu, le matin, pendant le travail, après le travail, ça ressemble à quoi?
Le matin, j'aime ça prendre le temps de préparer la journée. Ce qui veut dire que c'est rien d'extraordinaire, là, comme probablement bien du monde. Là, j'aime ça préparer, comprendre ma journée qui s'en vient, la semaine qui s'en vient. Fait que c'est plus du travail plus tôt le matin, c'est comme une routine pré-travail. Le midi, quand je peux, je vais glisser une course. Tu sais, pour évidemment, si mon podcast favori, c'est la pas sortie du bois qui est sur la course en sentier, ben je cours pas mal. Fait que le midi ou le soir, je m'organise pour courir. Je pense que c'est ça qui me garde un peu de d'équilibre mental dans tout ça. Puis ben sinon, ça doit être 80% de ma vie est en rencontre.
Ouais.
Fait que je pourrais jamais. C'est drôle parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé chez Nolin, j'avais une adjointe qui m'était attitrée. Puis j'avais jamais eu d'adjointe dans ma vie. Puis elle est arrivée le lundi matin. Puis elle m'a dit salut. Elle dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis comme j'avais son pad de notes. Puis j'ai dit ben rien. Et puis aujourd'hui, ça serait impossible dans ma vie. Puis, tu sais, à l'époque, je connaissais pas ça. Puis probablement que je n'étais pas assez affairé ou je sais pas trop, j'ai pas la bonne mais aujourd'hui si je suis capable de faire ce que je fais, c'est que on est plusieurs personnes, on a une bonne gouvernance, on s'organise bien, puis j'ai une excellente adjointe là, c'est tout ça que ça met, sinon c'est comme, en tout cas moi personnellement ça serait impossible.
Non, c'est bon. J'adore entendre ça. Puis, Claude, avant de te laisser filer, si les gens veulent en apprendre plus sur LG2, est-ce que vous avez peut-être des postes ouverts? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que les gens devraient savoir? Je serais curieux de t'entendre.
C'est sûr qu'on a des à peu près à chaque mois, on a à peu près une cinquantaine de postes qui sont ouverts sur nos médias sociaux, sur notre site web et tout ça. Évidemment qu'on a une présence partout, Facebook, Twitter, Instagram. Nos trois bureaux ont toujours besoin de gens. Les candidatures spontanées sont aussi très bienvenues. Fait que, tu sais, dans la dernière année, on a des onboarding de gens spécifiquement à Montréal à chaque mardi. Mardi passé, il y avait 9 personnes qui ont été onboardées. Chaque semaine, c'est grosso modo entre 1 et 6 personnes. Habituellement, c'était quand même un peu exceptionnel à ce niveau-là. Dans la dernière année, je pense qu'on a engagé, je te dirais, à peu près l'équivalent d'une personne par jour. T'sais, je pense qu'il y a à peu près 220 personnes qui ont été engagées dans la dernière année. Évidemment, il y a des gens qui quittent aussi. Notre taux de roulement a grandi. On est quand même à peu près à la moitié du taux de roulement de l'industrie, mais fait que c'est une nouvelle composante aussi qu'on a. Mais on a une bonne... nos talents sont quand même... On a la chance de compter sur des talents qui sont quand même assez fidèles, qui sont très bons pour leurs collègues puis pour l'organisation.
Fantastique. Ben Claude, félicitations pour cette belle organisation, cette belle évolution à travers les années. On mettra d'ailleurs des liens dans les notes de l'épisode si les gens veulent en savoir plus sur les postes ouverts. Claude Auchu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez le partager sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.